de Lille le 18 octobre, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, Najib, c'est bien ça ?
Le 18 octobre, événement de lancement, voilà.
Oui.
L'antenne Hercule.
Et quand on sait qu'en notre région, les Hauts-de-France, et notamment ici aussi sur Lille, donc qu'il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup d'émulation autour du sujet, il y a des choses à faire.
Qui sont vos partenaires ?
Najib ?
Oh, ils sont très très nombreux, hein. Donc on a effectivement pas mal de collectivités territoriales. Historiquement, le SICTOM, la mairie de Paris, des acteurs aussi privés, des fonds d'investissement, des grands groupes, Decathlon, Boulanger, Electrodépôt, etc. Et aussi des financiers, hein, de plus en plus, bien sûr, c'est peut-être un gros mot sur cette antenne, mais il y a aussi des banques qui s'intéresse de plus en plus à ce nouveau modèle économique qui est porteur, bien évidemment, qui est générateur de valeur et qui est surtout créateur d'emplois. Parce que c'est ça qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on est sur des métiers sous tension. Et l'idée, c'est bien évidemment de former beaucoup de publics, donc des gens éloignés de l'emploi, mais aussi beaucoup de personnes en reconversion professionnelle, comme peut l'être aussi Aziz dans un parcours entrepreneurial qui est particulier, pour justement développer un secteur du réemploi et de l'économie circulaire au sens large, pérenne, et stable, solide.
Très bien. On rappelle que donc vous êtes sur le site de la braderie Porte de Paris à Lille.
Absolument.
Et qu'on retrouve toutes les informations sur votre organisation.
Exactement. Donc là, on a une exposition de sensibilisation qui s'appelle Le réemploi dans tous ses états. Oui. Donc n'hésitez pas à passer nous voir, effectivement, Porte de Paris ici et aussi en ligne, puisque l'exposition est aussi digitalisée, le réemploi dans tous ses états.org.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
On vous retrouve à Porte de Paris. Dans quelques instants, l'émission de jazz avec Doc Map et Bonaventure. Mais juste avant, on va faire un point avec vous, William Roger de la CGT, sur la grève qui a eu lieu et qui a lieu toujours à Emmaüs. On a très peu de temps, mais où on en est là de cette histoire? Tout le monde a entendu un peu parler de ça.
On en est d'abord à 63 jours.
63 jours, c'est énorme.
Pour la halte Saint-Jean à Saint-André. On en est aussi à 9 jours pour Grande-Synthe. Hein, il faut signaler qu'il y a un autre centre Emmaüs où les bénévoles se sont bénévoles entre guillemets se sont mis en grève. Mm-hmm. Hein, parce qu'il faut, voilà, c'est ça la particularité, oui, de cette grève, c'est. On dit c'est pas les salariés d'Emmaüs, c'est des non-salariés d'Emmaüs.
C'est justement tout le nœud à comprendre.
Tout le nœud du problème, c'est ça, c'est du bénévolat contraint et forcé, quoi, en quelque sorte. Ils bossent 40 heures.
Voilà, ils bossent 40 heures, ils sont
par semaine.
Il y a une rémunération ou pas?
Ils touchent un pécule.
Un pécule.
On dit c'est pas une rémunération, c'est un. Voilà, c'est 200 euros, 150 euros.
Pour 40 heures.
Pour 40 heures par semaine. Par mois, hein, ils touchent 150 euros ou 200 euros.
On laisse
par
les
par
auditeurs
mois.
Bien digérer les infos, voilà, pour bien comprendre la colère et comment ça a pu.
Alors, ils touchent parfois un peu plus, mais ils sont logés, ils doivent payer les charges. Enfin, vous voyez. C'est et tout ça pour un espèce de prétexte pour dire si vous bossez sagement pendant 3 ans, comme ça, vous aurez vos papiers. Mais en fait, ils sont là depuis 5 ans, 6 ans. Il y a une promesse de régularisation.
Il y a une violence sociale derrière.
Parce que les dossiers sont pas suivis. Et puis, il y a une violence aussi institutionnelle, clairement, de mépris, y compris de racisme. Mmh. Alors, qui est assez particulier peut-être à Saint-André, puisque y compris la direction d'Emmaüs France avait... souhaité, peut-être pour apaiser les choses, que la directrice d'Emmaüs Saint-André parte, mais le conseil d'administration d'Emmaüs Saint-André n'a pas suivi cette volonté, et donc elle est toujours là. Mais c'est pas qu'un problème de Saint-André, on le voit, il y a Grande-Synthe, on a des échos ailleurs aussi, que de plus en plus d'autres se rebellent contre cette servitude volontaire, en quelque sorte. Et de toute façon, confédéralement, la CGT a posé à Emmaüs France un ultimatum qui vient à échéance le 4 septembre, c'est-à-dire lundi.
C'est-à-dire lundi, oui.
Hein, pour dire, écoutez, il faut que ça cesse, il faut que ça bouge. Bon, on a laissé passer la période des vacances, on va dire la longue période des vacances. La grève a quand même commencé avant, en fin juin.
Bien sûr. Ouais.
Et là, à un moment donné, il faut que ça bouge. Sinon, la CGT s'engage à faire connaître ça dans toute la France et auprès de tous les centres Emmaüs. Parce que voilà, les conditions finalement sont identiques ou similaires. Et l'exemple de Grande-Synthe, depuis 9 ou 10 jours, nous montre que cette révolte, elle est là, et ils veulent être reconnus à part entière comme des salariés. Ils font un travail, et Dieu sait s'il y a du monde qui passe à Emmaüs, et on voit quel type de travail. Ils sont manutentionnaires, caissières.
On les retrouve sur la braderie, là, dans certains stands. Où est-ce qu'on peut marquer sa sympathie, peut-être sa solidarité?
Oui, il faut passer les voir. Ils sont sur le stand du comité des sans-papiers qui les soutient. Ils sont à la porte de Paris.
C'est le parvis de la mairie, là.
Voilà, juste devant la mairie, hein, du côté de l'entrée. côté Port de Paris.
On vous invite à passer les voir. Merci William Roger pour les infos de,
merci
de
pour
ce
eux.
Mouvement. On se retrouve tout à l'heure. Mais pour l'heure, c'est l'émission de jazz avec Doc Map et Bonaventure. Bonjour. Et leurs invités,
bonjour.
Bien sûr. Une émission. Mais oui, alors vous êtes les présentateurs de deux émissions, Musicopier et Jazzmo. On vous retrouve quand d'habitude ?
Eh bien justement, bonjour à toutes et à tous, chers auditrices, chers auditeurs, nous sommes en direct dans la braderie de Lille, les portes de Paris à Lille, donc justement, comme vous disiez à l'instant, à deux pas du stand CGT, à deux pas donc en fait de la caisse de soutien aux travailleuses et aux travailleurs en fait exploités par le système Emmaüs. C'est triste, mais c'est comme ça, il faut savoir rappeler que tout se dégrade.
Puis il faut lutter.
Et même Emmaüs se dégrade. Donc en fait, comme quoi il faut lutter. Donc n'hésitez pas à passer au stand CGT, comme ça vous pouvez donner de quoi soutenir le mouvement de grève. Et vous nous retrouvez immédiatement en fait donc au stand de Radio Campus pour ce week-end en direct, largement en direct, de la braderie de Lille avec mon camarade Bonaventure qui présente Jazzmo chaque samedi 23h minuit.
Tout à fait, tout se dégrade mais le jazz est en forme. Jazzmo en effet tous les samedis à partir de 23h. C'est vrai qu'il fait tard, voilà, mais ça fait nuit et puis on anime l'émission et on dit bonne nuit et à la semaine prochaine. Jazzmo, une émission sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure d'ailleurs à 14h avec donc l'émission qui va s'enchaîner.
Et pour ma part, Doc Map, c'est Musique au pied chaque mercredi 15h-16h. Vous avez une sacrée diversité de jazz sur Radio Campus Lille. Grosso modo, à part le jazz swing des années 20 aux années 40, qui n'a pas eu d'émission en fait spécifiquement présente dans la grille. Inversement, tout le reste des styles jazz des années 50 à nos jours est particulièrement bien représenté. On peut se vanter de cela. Il y a quand même 4 émissions. On embrasse très 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 fort, intensément Claude sur la bouche. J'espère que je n'aurai pas de problème avec les footballeuses et les footballeurs. Et également, bien sûr, en fait, notre ami El Barrio. On a des capsules à vous diffuser durant en fait cette heure d'émission consacrée au jazz sur les ondes de Radio Campus pour illustrer tout cela. Donc, vous l'avez compris, en fait, grâce à Bonaventure et moi-même, on va vous présenter rapidement en fait ce qui se passe avec le jazz sur les ondes de Radio Campus. Et avant de se tourner vers nos invités, je vous propose tout de suite en fait de demander à notre ami Claude de l'émission Jazz à l'âme chaque mardi 19h-20h de se présenter son émission et de lancer le fil conducteur de notre émission spéciale jazz.
Nous sommes dans les studios de Radio Campus, studio qui se situe sur le campus de la cité scientifique de l'Université de Lille à Villeneuve-d'Ascq, et nous sommes en compagnie de Claude Colpart. Claude qui présente Jazz à l'âme chaque mardi de 19h à 20h en direct. Alors Claude, pourrais-tu nous présenter ton émission Jazz à l'âme ?
Alors Jazz à l'âme, c'est une émission principalement thématique sur l'histoire et l'actualité non seulement du jazz mais aussi des musiques improvisées, parce que c'est aussi un peu mon dada, ça.
Le fil conducteur de notre émission cet après-midi à la braderie, c'est cette question en même temps simple et en même temps compliquée, c'est quoi le jazz ? Alors pour toi, qu'est-ce que c'est que le jazz ?
Il faudrait plus que la durée de la braderie pour expliquer ce que c'est. Disons une musique qui travaille à la fois sur le son, sur le rythme, quelquefois, pas toujours, hein, et voilà, qui improvise beaucoup justement. Donc, quand on voit un concert de jazz dans un lieu, si on voit le même groupe le lendemain, en principe, ce sera pas du tout le même concert.
Et alors toi, personnellement, qu'est-ce qui te touche dans le jazz ? Est-ce que tu en joues ? Et puis, oui, donc tu as cette émission Jazz à l'âme. Alors depuis combien de temps ?
Oh là, alors là, ça doit faire plus de 25 ans, je crois. J'ai pas la date, j'ai pas la mémoire des dates, moi, donc.
Plus de 25 ans, tu défends cette musique, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui t'attire tant ?
Ben, pourquoi ? Parce que ça reste, à part sur Radio Campus, où on est bien représenté, mais ça reste une musique qui est reléguée à des heures tardives, voire à pas d'heure du tout, à la télé ou sur la radio, à quelques exceptions près. heureusement et bien entendu. Et donc c'est une musique qu'on connaît pas alors qu'elle a influencé toutes les autres musiques qui existent encore aujourd'hui. Donc je pense que c'est bien de la faire connaître et de... Là, je reviens d'un festival à Anvers. J'étais ravi de voir un couple de deux jeunes gens qui s'y mettent, qui commencent à jouer et puis qui sont passionnés et enthousiastes sur ce qu'ils peuvent écouter. Donc ça, je trouve ça très bien.
Alors, tu parles de jeunes gens. Justement, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes, aux étudiants qui souhaiteraient se lancer dans une aventure radiophonique? Pourquoi pas défendre le jazz ou tout autre sujet?
Ben, qui commence par leur coup de cœur. Je crois que c'est le jazz, on y vient comme ça, c'est-à-dire on écoute un groupe, et puis si on est un peu curieux, on va chercher qui était par exemple le batteur du groupe. Après, on va chercher avec qui ce batteur du groupe a joué, dans quelle musique. Donc ça fait un peu boule de neige. Et c'est une musique qu'on découvre comme ça, je pense, et qu'on aime comme ça, et qu'on a envie de défendre à partir du moment où on s'aperçoit qu'il y a encore dans cette musique une forme de liberté qui demande à s'exprimer, à être partagée avec les gens.
Bien, merci beaucoup, Claude. Et donc, n'hésitez pas à écouter Jazz à l'âme. Donc, rappelle-nous, c'est chaque
mardi sur Radio Campus à 19h.
Toujours en direct de Radio Campus Lille, Radio Campus qui s'est délocalisé ce week-end à la Braderie de Lille. Donc nous sommes à la Porte de Paris et nous invitons les bradeuses et les bradeurs à ne pas hésiter en fait à prendre des stickers, des grilles, des programmes, pour avoir plus de renseignements sur notre activité radiophonique. Comme vous l'avez compris, grâce à cette capsule que Claude a généreusement accordé en fait pour présenter son émission Jazz à l'âme avec donc la complicité de Marie, le fil conducteur de cette émission spéciale jazz sur les ondes de Radio Campus, donc le jazz à campus, c'est quoi le jazz? Et pour ce faire, nous avons deux prestigieux invités avec tous les deux en fait une carrière absolument épatante, un CV remarquable. C'est Peter Orens. Peter, bonjour.
Bonjour.
Peter, que nous ne présentons même plus, en fait, tu as ton rond de serviette à Radio Campus. En fait, mes collègues animatrices et animateurs me refusent parfois, en fait, quand ils voient le nom de Peter. Non, Peter, on l'a déjà eu la semaine dernière et la semaine d'avant encore. Donc, en fait, s'il te plaît, tu l'invites pas. D'accord, je l'invite demain et je vous l'invite plus, en fait, avant la semaine d'après. Donc, c'est Peter, bien. En fait, qui est tout bêtement un membre éminent du collectif Musix. C'est le plus grand collectif de jazz et musiques improvisées de Lille, en fait.
Oui. Effectivement, en tout cas le plus ancien et le peut-être le plus structuré aussi, et celui qui a le plus d'activité en tout cas.
Oui, c'est ça, quand ouais. Je dis le plus grand, c'est pas par le talent, même si votre talent est absolument oui. Évident, vu que en fait avec Radio Campus c'est une histoire d'amour qui est vieille de plus de 20 ans quand même.
Tout à fait.
Mais en fait oui, c'est ça, c'est la plus grosse équipe, c'est le plus structuré, avec une activité particulièrement régulière, de manière hebdomadaire.
C'est ça, on organise des concerts toutes les semaines dans un lieu qui s'appelle La Malterie à Lille. Et en même temps, on crée beaucoup de projets qui vont effectivement du jazz, on va dire contemporain, free jazz, aux musiques improvisées, expérimentales et musique contemporaine. Donc c'est assez très très ouvert, on va dire. Et on ouvre notre temps fort musique s'est associé la semaine prochaine. Donc voilà.
Et la dernière fois que vous avez organisé un concert, c'était où? C'était quand
qu'on a organisé un concert, je pense oui. Que la dernière fois c'était mi-juillet, c'était le dernier concert qu'on a fait à la Malterie. On a une série tous les lundis qui est vraiment centrée sur l'activité des musiciens du collectif, donc tous les lundis à 19h, on appelle ça les lundis 19h, où on expérimente des projets et on invite aussi d'autres musiciens à venir jouer régulièrement. On organise aussi des sessions d'improvisation libre, ouvert à tous les musiciens une fois par mois. Donc voilà,
c'est de la musique diversifiée, c'est du ouais. Rock, musique du monde.
Non, c'est quand même plutôt axé sur les musiques improvisées et expérimentales. Avec quelques incursions effectivement dans le jazz, le free jazz et le jazz contemporain, on va dire.
Notre second invité, c'est Christophe H. Christophe, contrebassiste, pédagogue. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Donc en fait, le hasard fait très bien les choses. On te retrouve également dans le collectif musique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, s'il te plaît?
Parler de moi, enfin à travers le collectif musique, moi je fais partie d'un trio depuis 26 ans qui s'appelle le Stéphano Reims Trio, donc avec Stéphano Reims au piano et Peter ici présent à la batterie. Et d'ailleurs, on va jouer bientôt, on va jouer à
Café de Paris à l'Audito de Tourcoing le 22
ouais,
septembre.
C'est ça, vendredi 22 septembre. Où est-ce qu'on va jouer encore?
À la gare Saint-Sauveur.
Ah
aussi,
oui, c'est vrai, le 16 septembre.
Avec le Circum Grand Orchestra.
Non, avec, l'Orchestre de Musique.
Oui, l'Orchestre
en fait,
de Musique. C'est quand je disais qu'en fait, c'est une vieille histoire de monde. Des fois, en fait, j'ai des vieilles expressions qui ressortent. Bien donc, autant pour moi.
Oui, donc le 16 septembre, il y aura des petites formes tout l'après-midi. Et puis le Talk Beat Club.
Tout
le
à fait,
le soir.
Absolument. Et nous disions, en fait, donc, ton activité également au conservatoire.
Oui. Oui, au conservatoire de Lille, de Tourcoing et de la Madeleine.
Exactement.
Alors, juste une question. Oui. Voilà, on connaît une multiplicité d'instruments de musique. Est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui chez les jeunes à apprendre la contrebasse, enfin, à jouer de la contrebasse?
Pour jouer quel type de musique?
Oh, je ne sais pas. Jouer simplement de la contrebasse. Je sais que quand évidemment, mes enfants veulent apprendre d'un instrument, ils disent piano. Guitare, la contrebasse, c'est un instrument quand même original. Est-ce qu'il y a encore un intérêt chez les jeunes aujourd'hui
pour... c'est moi je dirais que c'est l'instrument dans un orchestre qui est le plus important, c'est la contrebasse.
Mais non, voilà.
En toute objectivité, hein.
Ont peu d'importance par rapport à la contrebasse. Et évidemment,
après la batterie, évidemment.
Il y a besoin de contrebassistes dans les orchestres symphoniques, par exemple. À Lille, mais dans toutes les régions de France et à Paris, il y a des orchestres symphoniques et il y a souvent même jusque 8 contrebassistes dans un orchestre symphonique. Mais sinon, la contrebasse, elle a été utilisée depuis les débuts du jazz, au début 20e à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Et depuis, après, c'est devenu l'instrument des débuts du rock. Parce que le rock des années 55, Elvis Presley, c'est encore une contrebasse qui joue.
Tout à fait.
Voilà. Après, la basse électrique, dans les années 50, la basse électrique a été inventée et voilà, ça a disparu des orchestres de rock. Et on en voit encore dans les orchestres de rockabilly. Stray Cats, par exemple. Mais sinon, actuellement, même dans la chanson, dans les musiques traditionnelles, par exemple les musiques de l'Est, les musiques tziganes, il y a plein de contextes musicaux dans lesquels... on entend la contrebasse jouer à l'archer ou en pit. Mais oui, donc, oui, évidemment qu'il y a un intérêt à étudier, à apprendre la contrebasse.
Et messieurs batteurs et contrebassistes, c'est très sympa de votre part, mais n'oublions pas qu'en fait l'instrument le plus important en jazz, c'est la guitare. Et nous recevons donc Eric Dubois, guitariste de son état. Là aussi, bien sûr, je parle en toute objectivité.
Je pense que la question précédente devait avoir un petit rapport avec... les moyens actuels de faire de la musique sans s'encombrer à étudier un instrument. Je pense qu'il y a peut-être qu'on évoquait ça, je ne sais pas. Mais voilà, ces nouvelles manières de faire existent. Il va falloir cohabiter avec.
Bien. Donc Eric est notre troisième invité et il est le directeur de la programmation annuelle indispensable Jazz Aveda.
Directeur, oui, il faut bien ça. C'est-à-dire que dans une association, il faut un président, donc ça m'est un peu tombé dessus, voilà.
Et la programmation de Jazz Aveda 2023-2024 reprend en quelle date?
Eh bien, ça reprend en octobre, toujours le deuxième dimanche du mois à 17h à la ferme d'en haut. Une première partie assurée tour à tour par des ateliers jazz de la région, des groupes émergents. Et puis ensuite, évidemment, les têtes d'affiche, entre guillemets, si on peut parler de têtes d'affiche dans ce milieu du jazz, qui passent donc en deuxième partie. Voilà. Et on en est à... Moi, je m'occupe de ça depuis 2005. Je pense que l'association a passé ses 25 ans maintenant. Donc, voilà. Je me permets d'ajouter que l'équipe est quelque peu vieillissante et qu'il serait de bon ton qu'on soit secouru par une jeunesse ardente, intrépide, dynamique et audacieuse, et si possible musicienne aussi.
Bon, vous l'avez compris les jeunes, engagez-vous. D'ailleurs, je ne dis pas ça seulement parce qu'il y a la CGT à côté et que l'on embrasse très 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 fort et infiniment. Il y a aussi en fait des partis politiques de l'autre côté, plus ou moins fréquentables, mais en tout cas en fait les jeunes, engagez-vous. Et je propose en fait à notre ami Bonaventure qui anime l'émission Jazzmo chaque samedi sur les ondes de Radio Campus de 23h à minuit de lancer le fil conducteur avec Christophe. On t'écoute, Bonaventure.
Alors voilà, donc dans cette émission, la trame, ça a été de chercher à comprendre ce que c'est que le jazz. Qu'est-ce que le jazz? Voilà. Donc nous.
C'est quoi le jazz, Christophe?
Voilà.
Oula. Alors, on n'aura pas assez de temps pour en parler, mais c'est une musique qui est née, qui est une musique de métissage déjà, donc qui est composée de plein de musiques. Vous savez qu'à la Nouvelle-Orléans, au début du XXe siècle et même avant, il y avait des gens qui venaient du monde entier. Alors il y avait des gens qui venaient de leur plein gré, qui immigraient aux États-Unis pour faire fortune. Il y avait des gens qui venaient pas du tout de leur plein gré, qui étaient emmenés dans des bateaux depuis l'Afrique et pour être des esclaves.
Et pas mal de militaires aussi.
Ouais.
C'est important parce que c'est un peu eux qui apportent le saxophone.
Ouais. C'est vrai qu'il y a des origines de musique militaire dans le jazz, c'est vrai. Le tambour.
Percussion.
Ouais. Et toutes ces musiques se sont mélangées, donc les musiques traditionnelles, les musiques européennes, donc les migrants, les Irlandais, les Italiens, les Polonais, tout ça, ils ont tous leur musique traditionnelle, et ça s'est mélangé avec d'autres musiques traditionnelles, d'autres parties du monde, y compris les musiques des Indiens d'Amérique. Et c'était des musiques de danse, petit à petit, ça a donné naissance à une musique improvisée avec une part d'improvisation. C'est pas totalement improvisé le jazz, enfin ça dépend des époques et des contextes, mais et ça s'appelle le jazz, donc je vais pas vous donner la signification du mot jazz, mais il y a plusieurs versions, mais en tout cas c'est certain que c'est un mot d'argot qui a une connotation, enfin qui est en rapport avec les maisons closes, la prostitution et l'activité sexuelle, et je n'en dirai pas plus, mais le mot jazz, all that jazz, ça veut dire tout ce bordel, quoi. Voilà. Donc c'est un gros mot, le jazz.
C'est un mot d'ailleurs qui n'a pas été pleinement accepté par les musiciens, notamment à la période des années 50, à la période du bebop, quand les musiciens noirs voulaient se réapproprier leur musique, le jazz, certains refusaient ce terme qui était un terme que les Blancs ont mis sur une musique noire, en fait, pour faire très simple. Donc, un type comme Charlie Mingus, par exemple, pour revenir sur la contrebasse, c'était assez virulent à ce sujet. Mmh. Et Miles Davis aussi, je pense.
Ben c'est vrai que maintenant, le mot jazz, on vend de tout grâce à ce mot.
Ah oui, absolument.
Il y a tout sauf de la musique. Donc, oui. Ce qui est vendu avec le mot jazz, ça peut être une voiture, un parfum.
J'ai vu du vin jazz, voilà. J'ai vu des sacs de pommes de terre jazz.
Voilà.
Des voitures jazz.
Et c'est vrai que quand on regarde la programmation des festivals dans le jazz, c'est vrai que des fois on se demande ce que ça veut dire le jazz, effectivement, parce qu'on trouve un petit peu de tout maintenant.
Ah oui, c'est même foncièrement caricaturé. Je veux dire, en fait, quand on voit la programmation de certains festivals qui ont pignon sur rue, on pourrait même, nous, en fait, les amateurs de jazz, se faire traiter de sexistes, parce qu'en fait, grosso modo, le jazz est majoritairement vendu dans ces festival là pour l'exhibition de chanteuses à forte poitrine, alors que nous sommes féministes, nous à Radio Campus. Je crois qu'en fait les animateurs et animatrices, mais là je vise bien sûr les animateurs de Radio Campus, seront les premiers à dire bien sûr, nous sommes en fait des militants féministes, et là en fait on caricature la femme dans certains festivals de jazz, et c'est bien triste.
C'est-à-dire que les festivals sont surtout là pour l'aspect festif, je pense qu'ils sont, aidés par les collectivités, par les institutions subventionnées pour faire fonctionner la vie économique pendant un temps donné, notamment les petits villages du Sud. Et donc il y a des musiciens de jazz, qu'on appelle ça jazz, bon d'accord, mais comme il faut ratisser l'art pour qu'il y ait du monde et que ça fonctionne, oui, peut-être des chanteuses à forte poitrine, exhibées en culotte d'ailleurs, la plus souvent. Ça, parce que ça fonctionne toujours très bien en termes d'accroche du public. Et puis on y met un peu de hip-hop, on y met un peu de rock, un peu de chansons françaises pour que ça fonctionne. Alors on ne peut pas leur jeter la pierre aux gens qui organisent ça. Mais du coup, forcément, dans la tête du public, le jazz, on se demande ce que c'est. On a tout à fait raison de se poser la question, parce qu'on met vraiment beaucoup de choses sous cette terminologie.
On pourrait presque se poser la question, est-ce que le jazz est mort?
Il sent bizarre.
En tout cas, le jazz n'est pas mort. Mais dans la réponse de notre invité tout à l'heure, il évoquait la ville de la Nouvelle-Orléans. Dès qu'il s'agit de définir le jazz, on va sortir systématiquement la ville de la Nouvelle-Orléans. Cet endroit du monde cosmopolite où se sont regroupés à un moment donné dans l'histoire des hommes et des femmes, venus de différents endroits du monde, certains de leur propre gré, d'autres contre leur gré, ainsi que vous l'avez précisé. Donc ce n'est pas par hasard que le jazz est né à la Nouvelle-Orléans? Donc c'est pas par hasard. Parce que sa nature même de musique métisse, quelqu'un disait c'est un objet musical non identifié. On sait que c'est une musique qui s'est nourrie d'apports de différentes parties du monde, l'Afrique, l'Europe, enfin surtout les États-Unis. Donc est-ce que c'est un hasard que le jazz soit né à la Nouvelle-Orléans? Je sais pas.
C'était la ville la plus multiculturelle qui soit à cette époque-là et dans le monde.
Les conditions étaient remplies pour que ça arrive là-bas. Après.
Et le premier enregistrement répertorié comme étant du jazz, qui est un enregistrement d'un orchestre blanc d'ailleurs, qui imite les orchestres noirs, est un groupe qui joue de la musique de la Nouvelle-Orléans. Ceci dit, il y a certains historiens qui remettent en question la naissance du jazz dans cette ville, parce que finalement, le jazz va très vite devenir une façon de jouer la musique populaire en laissant une part de liberté et donc d'expression personnelle aux solistes qui vont jouer les thèmes et les déformer, puis ensuite les réinventer jusqu'à l'improvisation. Ça va surtout être ça, mais ça part effectivement au départ d'un jazz un peu festif, collectif, avec une part d'improvisation. Par l'improvisation, c'était pas une décision. Je pense qu'on a oublié certaines parties, donc on les a improvisées tout simplement. Et c'est devenu une part très importante de cette musique. Il y a l'aspect collectif aussi, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup d'interaction. Et c'est surtout devenu maintenant une façon de jouer de la musique. On peut très bien reprendre le dernier tube de n'importe quelle chanteuse à la mode et en faire un morceau de jazz en revoyant un petit peu l'habillage harmonique et en improvisant sur le tissu de la chanson.
Le premier film parlant s'appelait Le Chanteur de Jazz.
Encore un blanc qui imite les noirs.
Un blanc maquillé en noir.
On aimait bien l'exotisme. C'est un peu resté d'ailleurs.
Merci Marcel pour ce détail très intéressant. Souvent quand il s'agit de définir le jazz, on est renvoyé toujours à son origine, donc ce qui fait qu'on parle de cette ville, la Nouvelle-Orléans, même si c'est vrai que certains historiens ne sont pas d'accord là-dessus. Mais quand on parle jazz, quand on dit qu'est-ce que le jazz, on a envie aussi de définir cette musique par ses caractéristiques intrinsèques, c'est-à-dire sa nature même. Mais là, je crois que c'est un peu plus difficile. Moi, je pose souvent la question aux gens qui font de la musique, et nous en avons en face de nous. Je crois que la question avait été posée à Louis Armstrong et il aurait dit écoutez, si vous ne savez pas ce que c'est que vous ne saurez jamais ce que c'est que le jazz. Et un autre jazzman célèbre aurait dit écoute, quand ce n'est pas du rock, quand ce n'est pas du c'est le jazz. Alors moi je dis les musiciens que nous avons en face de nous, par les caractéristiques intrinsèques même de la musique, comment vous définiriez le jazz finalement?
On commence par celui qui en joue le moins. je me sens pas extérieur. J'ai tendance à pas définir la musique que je fais déjà, parce que ça m'intéresse pas spécialement. Il s'avère que j'ai commencé par faire de la musique en aimant le jazz et en l'écoutant, et du coup en voulant reproduire ce qui se faisait dans les années 40, 50, ça m'a intéressé et j'ai suivi un peu ce parcours-là et ça m'a intéressé énormément. Donc j'ai appris à le jouer, parce qu'aujourd'hui on peut apprendre à jouer du jazz, ce qui n'était pas le cas avant, qui est quand même quelque chose, enfin en tout cas de l'apprendre de manière académique, on va dire, et ça a quand même beaucoup changé la donne ces 30 dernières années. Mais pour moi, ce qui est important dans la musique, c'est ma vision personnelle de la musique, c'est la liberté à l'intérieur de la musique et ce qu'on fait des différentes influences. Pour moi, le jazz, c'est effectivement, on parlait de métissage, et c'est pas qu'un métissage pour moi d'influence musicale, c'est aussi la société dans laquelle on vit, toutes les différentes influences humaines et sociales, ou même environnementales, qui font qu'on crée une musique qui a un rapport avec les situations qu'on vit. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans la musique. Donc des fois, ça se retrouve dans la catégorie jazz, et j'en suis très content. Des fois, non, et ça ne me dérange pas non plus que ça. Voilà, moi, c'est ma pratique, en tout cas, de la musique. Elle est comme ça, elle est quand même très, très ouverte. Et effectivement, j'étais particulièrement influencé et, marqué par toute la période de du free jazz américain, mais aussi de la free musique européenne, qui est encore une autre partie historique. Il faudrait beaucoup de temps pour en parler.
Et pour vous démontrer que le jazz est toujours particulièrement bien vivant, on va illustrer cela avec une pièce qui devrait interpeller notre invité Eric tout de suite sur les ondes de Radio Campus. Mémoire. Thank you. toujours à l'écoute de Radio Campus en direct du 106,6 de la bande FM, en direct sur le DAB+, dans les secteurs de Lille, Lens, Béthune, Arras, et en direct sur le www.campusite.com à travers le monde et le système solaire, car nous avons Curiosity, le robot parmi nos auditeurs. Nous sommes donc à la braderie et vous venez d'entendre à l'instant le Eric Dubois Quartet. C'est bel et bien en fait la formation d'un de nos trois invités.
Merci
Eric pour la qualité de ton œuvre en dehors bien sûr en fait de l'activité avec Jazz Avida. Alors messieurs, hors micro, nous avions des conversations très intéressantes sur mais dans ce cas-là, c'est quoi le jazz quand on met en perspective, par exemple, en contrebasse, un Henri Texier et une Joëlle Léandre? Alors, messieurs les professionnels, je vous écoute. C'est quoi le jazz avec de si belles et fortes personnalités?
Bah, c'est les deux, c'est ça qui est bien. Je pense que c'est ça qui moi, m'intéresse particulièrement, c'est que ça peut être à la fois Joëlle Léandre qui va aller... créer des œuvres avec John Cage, mais aussi faire de l'improvisation libre débridée. Et en même temps, Henri Texier, qui est quand même un représentant du jazz français, qui a un peu révolutionné quand même, remis quelque chose dans les années 80, 70-80, et créé un courant qui perdure encore aujourd'hui. Et c'est ça, et c'est aussi d'autres choses.
Oui,
et
On parlait tout à l'heure des qualités intrinsèques, du contenu intrinsèque du jazz. Moi, j'ai parlé d'improvisation, du côté collectif, donc de l'interaction aussi. Là, on vient de parler du côté totalement improvisé, mais aussi des petits copinages avec la musique contemporaine. Il y a un jazz très, très savant, très écrit, très étudié, qui apparaît sur la West Coast dans les années 50, 60. Qui est absolument passionnant, et puis il y a aussi le bebop qui est un peu plus revendicateur, un peu plus compliqué aussi, mais c'est le jazz qui sert de base à l'enseignement en conservatoire si je ne m'abuse. Et voilà, donc mais ça peut prendre des tournures tout à fait diverses. Le point commun de tout ça, c'est que les gens s'expriment individuellement en toute liberté en fait.
Alors j'en prends un instant l'antenne car vous l'avez compris, nous sommes dans des conditions du direct pur et dur à Porte de Paris, à Lille, en plein milieu de la braderie. Il y a une fanfare qui en fait est en train de s'approcher de nos micros et donc on va avec l'aide technique de Marcel proposer de donner la parole à notre ami Arnaud El Barrio de El Barrio Jazz de nous donner son point de vue sur ce qu'est le jazz.
Bonjour les amis, mais tiens, je connais ce générique. Watermelon Man, le grand saxophoniste in white jacket. Et oui, et bonjour ami bradeux El Barrio Jazz, Arnaud El Barrio, qui vous présente tous les lundis El Barrio Jazz de 13h à 14h. Émission consacrée au jazz, à la soul, au blues, à la musique du monde. Mais pourquoi le jazz? Eh bien, pourquoi le jazz? D'abord, le jazz, ça peut être ça aussi. Et oui, à l'origine, le jazz, c'était ça, c'était le swing. Mais pourquoi l'idée de faire une émission sur le jazz? Et oui, quand on a commencé, quand on a une révélation, avec l'album, à l'époque de Tutu Miles Davis, ce trompettiste et tout, on rentre petit à petit dans le jazz et on découvre plein de choses. Et quand on est amoureux du jazz, pourquoi ne pas faire une émission, justement, sur le jazz, avec... toutes ces rencontres avec toutes ces invités, aussi le plaisir de rencontrer les musiciens. Le grand plaisir de vous faire écouter les grandes chanteuses de jazz, et là notamment Billy et bien d'autres.
Hello. can swear, oh Mary, I can tell Jerry.
Et oui, l'idée de faire une émission sur le jazz, c'est à la fois effectivement refaire vivre ses idoles, mais aussi des musiciens plus contemporains, avoir des invités, la scène locale, et aussi se déplacer chaque année lors du Tourcoing Jazz Festival, lors du Jazz en Or Festival, et aller même aussi jusqu'en Bretagne pour faire le Festival du Bout du Monde. On a la chance aussi d'avoir de très bons musiciens. Donc le jazz, c'est ça, on a envie de faire découvrir le jazz, un plus grand nom, mais El Barrio Jazz, c'est le quartier. Et dans le quartier, on se mélange. Et on rencontre aussi des grandes chanteuses qui pensent à nous, notamment lors de nos 50 ans. Et oui, les grandes chanteuses, notamment, comme aussi China Moses, et oui, rappelez-vous.
Radio Campus, tu as bercé ma vie. Je me rappelle quand j'étais gosse, je t'écoutais au lit. Tu m'as fait découvrir du métal, du rap, de la soul et du jazz.
Oui, et surtout du jazz qu'on vous fait découvrir. Alors, vous savez aussi, El Barrio Jazz, c'est la découverte aussi, mais des fois, il y a même les enfants qui écoutent El Barrio Jazz. Je vous en donne la preuve tout de suite.
Nous sommes des frères et sœurs.
Moi, Violette.
Et moi, Gaspard.
Et moi, Paul.
Nous écoutons El Barrio Jazz de 13h à 14h.
Et c'est sur Radio Campus Lille.
Et oui, c'est sur Radio Campus Lille. Vous l'avez compris, tous les lundis, 13h-14h, c'est le Barrio Jazz. Alors, amis bradeux, amis auditeurs, faites une bonne braderie. Écoutez Radio Campus Lille, écoutez le swing. Et au fait, bonne braderie sur les ondes de Radio Campus Lille.
Toujours en direct de la braderie, vous entendez au fond la transition parfaite entre la capsule de notre ami Arnaud El Barrio pour sa très bonne émission El Barrio Jazz chaque semaine sur les ondes 106,6, car au fond nous avons également le collectif des sans-papiers exploité par Emmaüs qui en fait donne du son, donne de la voix pour défendre une très juste cause, la leur, avec nos camarades de la CGT. Et nous approchons inexorablement des bonnes dernières minutes. On a encore à peu près 8 minutes devant nous, chers invités, chers bonnes aventures, pour avancer notre réflexion sur qu'est-ce que le jazz. Et nous avons véritablement à nouveau l'espace sonore pour nous pour réfléchir à cette question. Qu'est-ce que le jazz ? On vous a quitté un peu brutalement, chers invités, cher Eric, avec la question de ce jazz que l'on trouve aussi bien chez Joël Léandre que chez Henri Texier. Et Eric était en train en fait de nous expliquer. Bonaventure, tu veux reprendre le fil ?
Oui, en effet, cette trame, hein, qu'est-ce donc que le jazz ? Nous l'avons défini par les origines de cette musique. Nous avons parlé de ses caractéristiques. Nous allons, tout à l'heure, notre invité hein, évoquait son caractère improvisé. Nous allons peut-être enchaîner avec ça. Je me rappelle que c'est Dave Brubeck et Paul Desmond qui ont fait le tube planétaire Tech 5 que vous connaissez. Qui disait que voilà, donc ils sont, enfin Dave Brubeck disait qu'il est entré dans le jazz parce que il a un côté borderline, il n'aime pas être contraint. Alors on entend donc les sirènes de la protection civile hein, sur la braderie. Eh bien voilà, donc nous
c'est
disions,
ça, le hein,
c'est ça le jazz, voilà, c'est en effet
c'est ça, notre le jazz.
C'est ça le jazz, voilà, l'imprévu, gérer, maîtriser l'imprévu, c'est vraiment ça aussi le jazz. Et donc Dave Brubeck disait, il est entré dans le jazz parce que il sait qu'il a un côté borderline, il ne pouvait pas faire de la musique classique parce que dans la musique classique il y a un côté un peu contraint. Et moi, j'allais poser la question à nos invités. Hein. Est-ce que quand est-ce encore du jazz? Voilà.
Bah, oui, bien sûr, parce que, par exemple, si on écoute les big bands, les grands orchestres de danse des années 30, 40, et après la musique pour grand orchestre, bah, y a énormément d'écriture, et même, même maintenant, les grands orchestres, il y a énormément d'écriture. L'improvisation peut avoir une partie assez réduite, mais disons qu'il y a des codes qui sont utilisés, qui sont les codes du jazz, au niveau harmonique, rythmique, voilà. On pourra identifier la musique en disant ben ça c'est pas du reggae, c'est pas de la musique irlandaise, c'est du jazz. Mais pour autant, il y aura peut-être très peu d'improvisation.
D'ailleurs, dans le cursus des étudiants en conservatoire ou en école de musique qui étudient le jazz, on leur demande en fin de cursus de porter un projet personnel, si je ne m'abuse. Et donc un projet personnel, ça veut dire créer quelque chose et donc gérer l'espace sonore. Ça veut dire gérer un groupe, gérer l'écriture, gérer les parties improvisées, les parties écrites, etc. Mm. Donc ça fait partie du parcours. Les musiciens de jazz des années 50 reprenaient des mélodies populaires et se sont beaucoup amusés à réécrire des thèmes. Charlie Parker est très, très connu pour ça, entre autres. Dave Brubeck, oui, alors... C'est presque curieux de dire ça de sa part, parce que c'est quand même assez écrit ce qu'il crée, même s'il intitule un de ses morceaux un square dance, ce qui signifie la danse du type qui n'est pas carré, qui n'est pas dans la rigueur, etc. Mais c'est quand même très très écrit. Et c'est pas vraiment le genre de jazz le plus facile à aborder, il me semble, en tout cas. Mais bon.
Même d'ailleurs, à l'origine, les grands big bands, les grands orchestres de Duke Ellington, ils n'improvisaient pas toujours, il me semble.
Bah, Duke Ellington, c'est des grandes compositions, c'est un grand compositeur, un grand orchestrateur, et il y a des pièces dans lesquelles il n'y a pas d'improvisation. C'est comme une pièce de musique pour un orchestre symphonique, une pièce de musique classique.
Oui, il y a
tout est écrit.
Il y a des références à la musique classique.
Mais le langage, c'est le langage du jazz.
Donc voilà, donc il faut bien comprendre que cette définition du jazz, voilà, qu'on nous assène bien souvent, c'est de la musique improvisée. Elle n'est pas toujours improvisée. Elle est aussi écrite et c'est d'ailleurs ce qui fait donc la singularité du jazz. D'être une musique qui peut être fabriquée sur place, mais voilà, qu'on peut avoir aussi écrit. C'est ce qui fait donc ce côté très intéressant, particulier aussi du jazz. Arnaud,
le jazz, c'est peut-être aussi une question de rencontre pour vous. Quelle a été la rencontre qui vous a fait basculer dans l'enfer du jazz?
Bah, on s'est rencontrés au conservatoire.
Moi, je t'ai fait basculer dans l'enfer du jazz.
Grosse responsabilité.
Ouais, ouais. C'est pas toujours l'enfer. Des fois, c'est bien.
Oui.
Mais c'est le conservatoire. Le conservatoire, il dispense un enseignement, mais il permet aussi aux jeunes de se rencontrer, de former des groupes. Il y a beaucoup de projets musicaux qui regroupent des étudiants qui étaient dans les mêmes classes au conservatoire. Ça nous est arrivé, je crois, donc avec Stéphane.
Ouais.
Et toi?
Je pense qu'effectivement, s'il y a bien un intérêt à l'enseignement du jazz, c'est le fait de se faire rencontrer des musiciens à peu près de la même génération et qui vont avoir envie de faire des choses ensemble. Et c'est effectivement très très riche.
Il y a d'ailleurs une tradition de la jam, c'est-à-dire la confiture. Qui consiste à inviter des musiciens à une soirée en particulier où chacun vient jouer et improviser avec des gens connus, pas connus. Et à ce propos, je signale que l'association Jazz à Mons propose des concerts jam le dernier mardi du mois au Fort de Mons. Voilà, donc venez nombreux, venez jouer, c'est très...
Et les deuxièmes lundis du mois à la Malterie, il y a des jams improvisés.
Et il y en a d'autres.
Il y en a plein, il y en a plein d'autres.
Il y en a plein d'autres, et on en a fait, je me souviens, à l'époque où nous étions tous les trois au conservatoire, il y avait le biplan, on avait aussi ces possibilités-là de rencontres et d'échanges. C'est vrai qu'il y a plein de projets qui ont émané de ces rencontres. Le jazz, c'est aussi un truc de personnalité, quoi.
À 13h49 sur les ondes de Radio Campus, je pense que justement, grâce à vous, chers invités, c'est une très bonne façon en fait de rendre progressivement l'antenne pour la suite des programmes de Radio Campus, sachant dans quelques instants nous allons encore entendre un dernier extrait sonore, justement celui du Stéphane Orens Trio, dans lequel joue, ça tombe bien, Christophe, dans lequel joue, ça tombe bien, Peter, et un certain Stéphane que nous aurons la semaine prochaine à notre micro sur les ondes de Radio Campus, dans l'émission Musicopier, mercredi 15h-16h, donc la semaine prochaine, vous l'avez bien compris. C'est-à-dire, en fait, le jazz, c'est quoi ? Ben, c'est une formidable aventure de fête de rencontres, fête de festivals, fête de disques qui nous ont marqué, fête de concerts que l'on peut voir sur scène à Lille, par exemple, en fait, à la Malterie avec nos amis de musique, ce que l'on peut voir à Villeneuve d'Ascq, à la ferme d'en haut, en fait, comme je viens par cœur, comme je viens quasiment les yeux fermés, pas en voiture, c'est un peu dangereux quand même de venir les yeux fermés à la ferme d'en haut. J'ai même parfois en fait une hésitation pour dire l'adresse, c'est complètement idiot. Donc avec nos amis de Jazz Aveda que nous remercions très chaleureusement. Le jazz, c'est également sur les ondes de Radio Campus, comme vous l'avez compris avec les différentes émissions de El Barrio Jazz, Jazzmo, Jazz Alam et modestement Musicopier. Et cher auditrice, cher auditeur, il va être l'heure de rendre l'antenne pour laisser profiter de la suite des programmes, notamment avec le Foutu Mélange qui arrive dans quelques instants. Et pour l'instant, en fait, Marcel va nous permettre de saluer nos invités que nous remercions encore très chaleureusement. Merci Eric, merci Peter, merci Christophe.
Merci.
Et merci à mon super duettiste. Bonne aventure.
Merci, chers invités.
Avec donc le Stéphane Orens Trio, Vangri Matai, extrait du dernier album de Trio, October 11. C'est le lecteur tous sur Bye Bye. Et bonne écoute des programmes de Radio Campus, tout de suite sur les ondes du 106,6.
Il est 13h56 sur les ondes de Radio Campus en 6,6 et on est en direct de la braderie de Lille jusque 21h aujourd'hui et jusque 17h demain. Petrouchka, on reçoit tout de suite Mathilde de la maison des assos de Lille et puis juste après Marcel, notre auditeur. L'auditeur.
Notre Marcel, l'auditeur fidèle
de Campus. Arrêtez bonjour, de demander combien Marcel, il y a d'auditeurs bonjour, à Radio Campus. Mathilde. On a un auditeur et on vous en. Enfin voilà. Alors, je te laisse.
Bonjour Mathilde. Donc tu es chargée de communication et chargée d'animation de la plateforme placedesassos.lille.fr. Tu peux nous en dire plus ?
Tout à fait. Du coup, je suis Mathilde Lassu de la Maison des Associations. La Maison des Associations, qu'est-ce que c'est ? C'est une structure qui regroupe environ 800 associations de la métropole, surtout de Lille. Nous, notre événement phare, c'est surtout le Forum des associations, où vous pourrez retrouver notamment des associations que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine toutes les associations, on va dire, de la région, enfin de Lille.
Oui.
C'est un peu une vitrine en fait du milieu associatif lillois. Donc, c'est surtout si vous souhaitez vous engager ou ce genre de choses. Et après, nous avons aussi la plateforme Place des Assos, qui est une plateforme en fait qui fait le lien entre les citoyens et les associations. Donc, vous pouvez y retrouver notamment des offres de stage, des apprentissages, des services civiques, ou aussi si vous souhaitez vous engager, cette fois-ci des offres de bénévolat. Voilà.
Et quand est-ce qu'aura lieu le forum des associations et du bénévolat ?
Du coup, le forum des associations et du bénévolat se déroulera le 30 septembre,
oui,
de 10h à 17h au Grand Sud, donc 50 rues de l'Europe à Lille. Donc en fait, si vous vous situez, c'est à peu près Porte des Postes, à 4-5 minutes, on va dire, de l'Illénium.
D'accord. Voilà. Il est encore possible de s'inscrire en tant qu'association pour participer ?
Malheureusement, les inscriptions ont été clôturées, mais par contre, n'hésitez pas si vous souhaitez vous engager ou ce genre de choses. Il n'y a pas d'inscription. Vous êtes tous et toutes les bienvenus.
Merci Mathilde.
Merci. On vous trouve où sur la braderie ?
Oui.
Alors, du coup, nous, on est en face de l'hôtel de ville.
Ah ben,
n'hésitez pas à venir, on a des goodies, des sacs, il n'y a pas de soucis, venez nombreux.
Mais ils vont venir, nos auditeurs, pas de problème. En termes d'auditeurs, justement, nous, souvent on nous demande, je le répète, on nous demande, mais combien d'auditeurs ? Mais nous, on ne sait pas, on s'en fout, Marcel, on s'en fout, nous.
Carrément.
Carrément, on ne sait pas combien, mais on sait que Marcel nous écoute. Bonjour Marcel.
Bonjour. Salut. Marcel.
Comment tu vas ?
Ça va très bien.
Alors Marcel, tu as une certaine légitimité, tu nous écoutes depuis combien de temps ?
Depuis le début, en 1969, j'ai acheté mon premier poste de radio pour ma voiture pour écouter Campus.
Mais c'était même pas encore légal, c'était une radio.
Ah non, c'était pas légal.
Alors il y a des périodes qui t'ont un peu marqué de cette radio ?
J'ai suivi Campus en permanence, quoi, y compris quand les flics sont venus chercher le matériel, etc.
C'était quand ça ?
J'ai pas de date précise.
T'as pas de date précise.
Ah oui, voilà, c'était sur le campus, quand le campus a été envahi par les CRS, etc. Quoi, c'était.
Ah oui, déjà, les campus envahis par les CRS, oui, déjà la police qui
venait, la police, oui, était toujours présente.
Toujours présente, c'était nos plus fidèles auditeurs à l'époque, peut-être.
Oui, bien sûr.
Et alors, tu t'écoutes combien de temps à peu près campus dans une journée ? Grosso modo.
Parce que. Je me lève avec